Et au verset 27. Voilà, pendant que vous cherchez le texte, j'en profite pour saluer les visiteurs qui sont au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, chers amis, frères et sœurs, et que la grâce de Dieu soit votre partage. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le texte littéral dit « Il les créa, mâle et femelle. » Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Puis au chapitre 2, au verset 18, chapitre 2, verset 18, toujours la Genèse. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. » En hébreu, homme c'est ish, femme c'est isha. Voyez, donc ça dérive l'un de l'autre. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et enfin, au chapitre 4, au verset 1er, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Amen. Voilà, nous vivons dans une période particulière, en ce sens que, vous l'avez certainement remarqué, les médias, les journaux, audiovisuels ou la presse papier, les romans, le cinéma, le théâtre, les séries télévisées, et parfois même, hélas, les responsables religieux font la promotion de l'homosexualité. Alors, doit-on, nous, chrétiens, nous voiler la face ou simplement nous scandaliser à ce sujet? Et ce matin, je voudrais aborder cette question et j'intitulerai cette réflexion, cette méditation de la manière suivante. L'Église face au défi de l'homosexualité. Car je considère que pour l'Église, j'entends l'Église de Christ, la véritable Église de Jésus, celle qui est composée d'hommes et de femmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, qui se sont repentis, qui se sont engagés dans une voie nouvelle et qui désirent conformer leur vie, leur style de vie aux déclarations de la parole de Dieu. Pour ces gens-là, pour l'Église donc, quelle doit être notre réaction? Dans les textes que nous avons lus, nous assistons à la création de ce que l'on pourrait appeler la famille normale. Selon les normes, donc, selon les règles, selon les principes que Dieu a institués, un homme et une femme qui vont engendrer des enfants, qui vont procréer. Et nous remarquons que Dieu a créé tout d'abord un homme, puis, décidant de lui adjoindre une aide semblable à lui, d'autres traductions disant vis-à-vis qui lui correspondent, Dieu a créé une femme. Et il a édicté cette loi, ce principe absolu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et ce une seule chair concerne nos nos liens affectifs, n'est-ce pas ? Mais concerne aussi les relations sexuelles, qui sont tout à fait légitimes, mais dans le cadre exclusif du mariage entre un homme et une femme. Or, vous le savez, je ne vous apprends rien, aujourd'hui, sous prétexte d'égalité, on voudrait nous faire croire que notre orientation sexuelle ne dépend pas de notre morphologie, de notre anatomie, de notre sexe, mâle ou femelle, masculin ou féminin, mais dépendrait de l'éducation, des influences sociales que nous aurions reçues. Et parallèlement à cette opinion, on voudrait nous faire admettre que, après tout, l'amour de deux hommes ou de deux femmes et les relations sexuelles qui vont avec sont aussi légitimes, aussi acceptables que l'amour entre un homme et une femme. On nous dit qu'il s'agit là simplement d'orientations sexuelles différentes, qu'il faut respecter, qu'il faut accepter, qu'il faut reconnaître. Pourtant, quand je lis le texte et que vous l'avez lu avec moi, il créa l'homme et la femme. Et je précise, je l'ai précisé au cours de la lecture, je le répète, le texte littéral en hébreu dit « il les créa, mâle et femelle ». Et c'est selon cette orientation, selon ce point de vue, que notre gouvernement et notre parlement ont légalisé le mariage entre deux personnes d'un même sexe. Dans la foulée, il y a même eu, hélas, récemment, des communautés religieuses qui se disent chrétiennes, qui acceptent désormais de bénir, je mets le verbe bénir avec beaucoup de guillemets, de bénir au cours d'une cérémonie religieuse l'union de deux hommes ou de deux femmes. Et tous ceux qui sont en désaccord avec de telles conceptions sont taxés d'homophobes. Le terme est à la mode. De gens intolérants, sectaires, étroits d'esprit, rétrogrades et même dangereux. Alors, pour nous, disciples de Christ, alléluia, amen. Pour nous, chrétiens évangéliques de Pentecôte, la référence suprême, l'autorité suprême n'est pas constituée par la parole, les slogans, les opinions, les affirmations, les revendications, les pratiques du monde contemporain, de notre société, société qui se paganise de plus en plus, appelant bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Non, pour nous, la référence suprême, l'autorité suprême, eh bien c'est la Bible. Amen. Amen. Pourquoi la Bible? Parce que c'est la parole divinement inspirée. Et Jésus, n'est-ce pas, l'a validé, cette Bible, cette parole divine, en disant « Ta parole est la vérité ». Et cette parole, elle est immuable, puisque Jésus encore lui dira « Le ciel et la terre passeront », vous voyez, « L'univers disparaîtra », mais dira-t-il « Ma parole ne passera pas ». Et cette parole divine, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas, je dirais, de l'air du temps. Non, non, non. Elle s'applique à toutes les cultures et à toutes les générations. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 23 jusqu'au verset 25, parle d'une parole vivante et permanente qui demeure éternellement. Une parole vivante et permanente qui demeure éternellement. Ce que Dieu a établi, ce que Dieu a institué particulièrement à l'égard de la famille, du couple, dès l'aube de l'histoire de l'humanité, demeure de manière permanente. Alors, sur les points que nous venons d'évoquer, que dit la Bible? Que dit la Bible? Eh bien, laissez-moi vous citer, vous lire avec vous, comme vous voulez, un certain nombre de textes. Dans le livre du Lévitique, par exemple, au chapitre 18 et au verset 22, Il est question de cela. Et il est dit ceci, Lévitique 18, verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Qu'est-ce que c'est qu'une abomination? C'est un péché, bien sûr, mais un péché qui fait particulièrement horreur à Dieu. Vous savez, on a l'habitude de dire « Le péché, c'est le péché, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. » C'est vrai dans un sens, mais ça n'est pas tout à fait dans un autre, parce qu'il y a des péchés qui sont qualifiés par la parole de Dieu, non pas par une autorité ecclésiastique, mais par la parole de Dieu, d'abomination. C'est-à-dire quelque chose que Dieu adore, que Dieu désapprouve, qui fait horreur à notre Dieu et Père Céleste. Pourquoi cela? Parce que, en l'occurrence, le fait d'avoir des relations entre personnes de même sexe, eh bien, constitue une distorsion, une déviance, une déviation, une perversion de l'ordre naturel institué par Dieu. Dans le livre des Juges, au chapitre 19 et au verset 22, il y a là une sombre histoire. Une sombre histoire. Il est question d'un homme qui arrive dans une ville, voilà, il ne connaît personne, et un vieillard offre à cet homme et à la femme qui est avec lui, sa concubine en l'occurrence, l'hospitalité pour la nuit. Et le texte 2 dit ceci, « Pendant qu'ils étaient à se réjouir, vous voyez qu'ils cassaient la croûte là, tous ensemble, dans la maison de cet homme âgé qui avait exercé l'hospitalité, pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte, et dire au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Alors vous pourriez dire peut-être, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, là, hein. Il voulait simplement le connaître, faire sa connaissance. Non. C'est pas de ça du tout dont il est question, parce que dans le langage biblique, le verbe connaître signifie connaître intimement, connaître sur le plan sexuel. Excusez-moi la précision, ça veut dire pénétrer. Vous comprenez à quoi ça fait allusion, n'est-ce pas? Et c'est ces gens pervers, c'est à ce genre de relation qu'ils voulaient se livrer en faveur de ce voyageur qui venait réclamer l'hospitalité. Il est question là de gens pervers dont nous disons, avec la parole de Dieu, que ces pratiques constituent une perversion de l'ordre naturel institué par Dieu. On va un peu plus loin et on va lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er et au verset 24. Épître aux Romains, chapitre 1er et le verset 24. Voilà ce qui est dit. C'est le Nouveau Testament, cette fois. Et il est dit ceci, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant à eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Et au verset 32, il est dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. On dirait que ça a été écrit pour notre époque, hein. Et je crois que c'est le cas. Il est question, là, vous l'avez noté, je pense, de l'homosexualité autant masculine que féminine. Et quels sont les termes qui sont appliqués à ces désordres moraux? Ces pratiques sont qualifiées dans ce texte d'impureté, de déshonneur, de passions infâmes, d'actes contre nature, de choses indignes, passibles du jugement de Dieu. Passibles du jugement de Dieu. Je pense que là, j'espère tout au moins, on est tous d'accord, ok? Cependant, en parallèle avec ces textes, nous devons aussi nous souvenir que la loi royale, selon les Écritures, est celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est tous les prochains. Vous voyez? Hein? Un jour, un homme a posé cette question à Jésus: qui est mon prochain? Et il a voulu montrer par la parabole du bon samaritain que le prochain, eh bien, c'était même celui qui aurait pu être traité jusque-là avec mépris. Ah, et toi, fais de même, dira le Seigneur Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si j'en crois à la parole de Dieu, et je sais que je parle à des gens convaincus, je l'espère tout au moins, cette règle ne souffre aucune exception. Amen.
Amen.
On peut, on doit, puisque Dieu le fait, haïr le péché, le désapprouver, le condamner, et c'est ce que Dieu fait. Il le juge inacceptable, intolérable, inadmissible. Il le désapprouve, le condamne vigoureusement. Mais en même temps, nous devons aimer les pécheurs, puisque Dieu lui-même les aime. Alléluia. Quelle que soit la mesure de leur culpabilité, il les aime et il veut les sauver. C'est écrit dans l'Épître à Timothée: ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et dans l'Épître aux Romains, il est dit que Dieu prouve son amour envers nous, nous tous, quelle que soit notre vie, quel que soit notre présent ou notre passé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. C'est pourquoi, même à l'égard de ceux qui s'adonnent à ces pratiques, ces désordres, ces péchés que nous venons de mentionner, il ne doit pas y avoir de notre part à nous, chrétiens, et reconnaissons que ce n'est pas toujours évident, il ne doit pas y avoir de notre part à nous, chrétiens, ni haine, ni agressivité, bien sûr pas physique, mais même pas verbale, les insultes, les moqueries, ni rejet. Dans ce lieu, nous voulons dire qu'à l'écoute de l'Évangile, il y a place pour tout le monde.
Amen.
Alléluia. Nous sommes les messagers de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle s'adresse à toute la création. Vous connaissez le texte, Marc chapitre 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire quoi ça? À chaque créature, à tout homme, à toute femme, quel qu'il soit, quel que soit leur style, leur genre de vie, aussi désagréable soit-il aux yeux du Seigneur et même à nos propres yeux, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, on vient de le dire, Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Christ est mort pour les péchés des hommes. Christ est mort pour les péchés. Et de ce fait, il nous offre, par la foi en lui, qui que nous soyons, la possibilité d'être pardonnés. Alléluia. Le pardon de Dieu, c'est merveilleux. Savoir que quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés, nous dit l'Écriture, ni de nos iniquités. Il nous offre la possibilité d'être pardonnés et aussi délivrés de nos péchés, quelle qu'en soit la mesure. Le sang de Jésus, son Fils, dit la première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, nous purifie de tout péché. Et Jésus ajoutera, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, celui qui se livre au péché, il devient l'esclave du péché. Mais si le Fils de Dieu vous a franchi, vous deviendrez réellement libre. Alléluia. Il y a une liberté illusoire, celle que le monde propose, fais comme bon te semble. Abandonne-toi à tes instincts, ou tout au moins à tes tendances les plus viles. Il n'y a là rien de mal. C'est bien ce que tu dois pratiquer. Non, non, non. C'est pas ça la liberté. L'Écriture dit, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont esclaves eux-mêmes de la corruption. Mais Christ offre la vraie liberté. N'est-ce pas? La vraie liberté se trouve en Christ. Ça concerne aussi les péchés dont nous parlons aujourd'hui. Amen. Christ pardonne et Christ délivre. Vous savez, il y a des exemples dans la parole de Dieu. Corinthe. Quand Paul est arrivé à Corinthe, il nous dira dans l'une de ses épîtres qu'il est arrivé dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Vous avez lu ça? Pour dire quand même, Paul, un homme de Dieu, rempli de l'esprit, comment se fait-il qu'il ne devrait pas, enfin, si c'était vraiment un homme de foi il... Mais c'est que la tâche était rude. Parce que les Corinthiens étaient réputés, à l'époque, pour mener une vie particulièrement dissolue sur le plan moral. Il y avait même une expression dans le monde antique. On disait « vive à la Corinthienne ». Vivre à la Corinthienne, ça voulait dire s'abandonner aux pratiques les plus amorales, les plus opposées à la morale, notamment l'homosexualité et puis tout le reste. Dans la civilisation grecque, c'était tout à fait courant. Vous savez qu'un grand conquérant comme Alexandre le Grand, vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Eh bien, était un homosexuel, excusez-moi, un pédéraste notoire. Hein, quelles que soient par ailleurs ses qualités de stratège militaire, il avait sur le plan moral une vie tout à fait corrompue et pervertie. Et c'est à ce climat moral et spirituel que Paul, il le savait, allait avoir affaire lorsqu'il arrive à Corinthe pour y prêcher l'évangile. Une grande ville de 700 ou 800 000 habitants, mes amis, c'était pas rien. Et c'était, n'est-ce pas, un lieu de corruption innommable. C'était une rue de tâche. Mais la grâce de Dieu est toute puissante. Alléluia. Et la grâce de Dieu ne se contente pas de nous faire la morale. Elle produit en nous une vie nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Ou même une nouvelle création. Pour lui, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce qui s'est passé à Corinthe, mes amis. C'est ce qui s'est passé à Corinthe. Regardez-vous, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 9, il est dit ceci, n'est-ce pas? Première aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9, avons-nous dit, 6, verset 9, « Ne vous y trompez pas, ne savez-vous pas, pardon, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. » Alors, selon les versions, vous avez « ni les infâmes ». Mais ce qui correspond exactement à ce mot, précisément, c'est « ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Écoutez ça. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, voyez. Parmi les chrétiens de Corinthe, il y avait des gens qui avaient vécu dans ces pratiques impures et perverses, n'est-ce pas? Et il y avait des gens qui avaient ce genre de vie particulièrement dissolue. C'est là ce que vous étiez. Et ça, c'est le passé, quelques-uns de vous. Mais vous avez été, gloire à Dieu, hein, lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Tout le monde s'est mis là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez remarqué là, dans ce texte? Eh oui, hein, oui. Vous avez été lavé par le sang de Jésus qui purifie de tout péché, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez été sanctifié, c'est-à-dire mis à part, soustrait arrachés à l'influence pernicieuse de la chair et du péché, mais vous avez été justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu, tout cela au nom de Jésus-Christ. Sur la base de l'œuvre de Christ accomplie à la croix du calvaire, sur la base de sa résurrection, sur la base de sa glorification et sur la base de son intercession qu'il fait monter vers son Père céleste auprès de lui dans les lieux célestes et au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mes amis, quand l'Esprit de Dieu emploie un homme ou une femme, il le change radicalement. Alléluia. C'était vrai autrefois à Corinthe, ça l'est encore aujourd'hui. C'est là l'évangile que nous devons affirmer, que nous devons prêcher, non pas seulement nous scandaliser. Oui, le Seigneur accueille tous ceux qui viennent à lui. Amen. Tous ceux qui viennent à lui dans un élan de repentance et de foi. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Gloire à Dieu. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est vrai ça? C'est vrai encore. Vous savez, la femme de mauvaise vie, certainement une prostituée, qui un certain jour, alors que Jésus participait à un repas, est venue pleurer à ses pieds, n'est-ce pas? Les mouillant de ses larmes. Oh, le pharisien, l'homme religieux, intérieurement, l'a méprisé, l'a jugé en disant, mais, et par là même, il jugeait aussi le Seigneur Jésus. S'il était vraiment prophète, il connaîtrait qui? Et de quelle espèce est la femme qui le touche? On sent tout le mépris qu'il avait pour cette pécheresse. C'est vrai qu'elle l'était. Mais Jésus l'a accueillie, l'a pardonnée et lui a donné de retrouver sa dignité perdue, de redresser la tête, d'être purifiée, libérée par rapport à son passé et de devenir une créature nouvelle. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Il peut le faire pour les prostituées, il peut le faire pour les adultères, il peut le faire pour les ivrognes, il peut le faire pour les pervers, il peut le faire pour les homosexuels. Vous dites amen?
Amen.
Alléluia. Alléluia. De telle sorte que nous, croyants, nous ne devons pas ni les rejeter, je le répète, ni les mépriser, mais accueillir ces personnes-là pour indiquer le chemin du pardon et de la délivrance, et le chemin du pardon de la délivrance, c'est la foi en Jésus, le Fils de Dieu. Et pour prier aussi pour eux, comprenons que ces pratiques, ces tendances constituent un lien très fort qui retient ceux qui s'y livrent et qu'il faut vraiment, vraiment que la puissance du Saint-Esprit agisse pour que ces liens soient définitivement est totalement brisé. Plusieurs fois, il m'est arrivé, au moins deux fois, trois fois, d'avoir à traiter de telles situations, et je vous garantis que c'est un rude combat qui doit se mener dans la prière, au nom de Jésus. Mais aussi, dans l'amour, il faut que celui qui est concerné par cette situation, qui veut en sortir, se sente accueilli, non pas rejeté, non pas méprisé, non pas jugé, non pas regardé de haut, mais qu'on puisse lui annoncer cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Priez pour eux, oui, pour la délivrance spirituelle et morale, et aussi pour la guérison, puisque, nous le savons, beaucoup, beaucoup sont atteints de maladies sexuellement transmissibles, et nous croyons que Dieu, là aussi, peut intervenir pour guérir. J'espère que je ne vous choque pas en vous parlant d'accueil à l'égard de ces personnes, vous savez. Les religieux du temps de Jésus se scandalisaient. Ils disaient, cet homme accueille qui? Les gens de mauvaise vie. Ce à quoi Jésus répondra, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Mais des pécheurs. Et Dieu sait que, eh bien, s'il est un péché, hein, qui est un lien particulier, c'est celui-là, mais Christ fait grâce. Eh bien, si Jésus accueille, imitons-le. Amen.
Amen.
Vous savez, qu'on le veuille ou non, on sera de plus en plus, mes amis, confrontés à ce genre de situation. Et il y a des gens qui vivent ces pratiques, qui vont venir dans nos réunions. qui vont être là, nous aurons des cas lourds à traiter, pas seulement les pasteurs, les serviteurs de Dieu, mais vous, chrétiens, en tant qu'Église, menons ce combat dans la prière, dans l'amour, dans la foi, dans la puissance du Saint-Esprit, pour qu'il soit manifeste qu'encore aujourd'hui, Jésus sauve et Jésus délivre. Alors, je vais conclure en disant aussi que ceci, c'est que il nous faut prier pour nos enfants, pour nos adolescents, pour nos jeunes qui subissent toutes sortes d'influences pernicieuses. Un frère d'une autre assemblée me disait que sa fille, qui a entrepris des études supérieures, très supérieures, me disait, mais dans sa promotion, ce qui est tout à fait courant parmi ses camarades jeunes filles, elles aussi, c'est la bisexualité, vous voyez. C'est-à-dire que ces jeunes filles, ces jeunes femmes, eh bien, n'ont pas de problème à aller autant avec un homme qu'avec une femme. Et il me disait, mais c'est courant parmi ces filles qui pourtant, eh bien, constitueront demain l'élite intellectuelle du pays. Voilà où nous en sommes. Alors on ne peut pas faire la politique de l'autruche en disant non, ça ne nous concerne pas. Si ça nous concerne. Et vous, parents chrétiens, ne rêvez pas, vous êtes concernés. Et devez prier pour vos enfants, vos ados, vos jeunes, qui subissent, je le répète, toutes sortes d'influences pernicieuses sur les réseaux sociaux, Facebook et les autres, sur Internet. Vous savez, il y a des sites orientés à la télé, à l'école même. Il faut aborder avec eux ces questions. Ne vous voilez pas la face. Ne dites pas, ils sont trop petits, vous savez, on se réveille trop tard. Et bien jeunes, ils en savent plus que vous ne pouvez imaginer. Il y a quelques années, avec Hélène et puis l'une de nos filles, nous nous occupions d'un groupe d'enfants à la Colotte. Quel âge ils avaient ? 6-9 ans. Eh bien, je vous garantis qu'ils étaient au courant de beaucoup de choses. Hein. Il n'y avait rien à leur apprendre. Alors, il ne faut pas rêver. Il faut aborder ces questions avec eux. Il n'y a pas de tabou. Avec pureté, bien sûr, les aborder ces questions, puisqu'ils y sont, ils y seront confrontés. Enseignons-leur ce qu'enseigne la Bible, et surtout, prions pour eux, même avec eux, pour qu'ils soient protégés. Prions aussi pour que nous, l'Église de Christ, nous soyons à la hauteur de notre mission, dans un monde dont les valeurs sont de plus en plus faussées. Soyons remplis de la parole et de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et puis, ne nous attendons pas à ce qu'on nous lance des fleurs. C'est tout le contraire. Hein? Parce que ce discours-là, ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas dans l'air du temps. Hein? Vous le savez, ça. Hein? Ils appellent mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Ben, nous y sommes. Il faut faire face. Il ne faut pas raser les murs en disant, oh là là, qu'on ne se fasse pas repérer surtout. Non. Il faut annoncer la couleur avec assurance, avec correction, je dirais même avec courtoisie, mais avec fermeté. Il est écrit que nous devons nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Il faut affirmer les choses et proposer aussi la grâce de Dieu, hein. Et pas là simplement pour faire la morale, pour dire aux gens, il faut pas, boum, c'est pas bien, mais dire, c'est vrai, c'est mal, mais en Christ, il y a pardon, il y a délivrance, il y a secours, parce que notre Dieu, il est vivant. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, sois béni pour l'amour que